Shiur dédié pour l'élévation de l'âme de Shlomo Ben Ler. La question de Johan.
On peut voir qu'il y a avant la Shoah, qu'il y a des grands d'Israël qui ont, entre guillemets, interdit à leur communauté et aux juifs qui les écoutaient de retourner en Israël. C'est-à-dire qu'on peut dire, entre guillemets, qu'ils avaient une part de responsabilité dans toute cette communauté-là qui sont restées sur place et qui n'ont pas pu fuir la Shoah. Mmh.
Question très, très, très blessante, très bonne, à laquelle il y a une réponse excellente. D'abord, c'est un argument bidon que utilise très souvent la propagande anti-religieuse contre les grands de la Torah, se basant sur un scénario qu'ils ont vu, celui de la Shoah, et disant si vous aviez agi différemment, compte tenu de ce que nous voyons, comment la Shoah s'est déroulée, alors on aurait pu sauver beaucoup de gens. Je m'explique plus clairement. Vu que Hitler n'est pas arrivé ici en terre d'Israël, et que tous ceux qui étaient en terre d'Israël ont été sauvés du nazisme, tous les grands de la Torah qui n'ont pas conseillé, pour la raison que je vais écouter dans quelques minutes, n'ont pas conseillé, ont même interdit, comme tu dis, alors qu'on est monté en Israël, ils sont collabos, de façon involontaire, en tout cas, de façon, en tout cas par erreur, ce sont des collabos des nazis. À cause d'eux, des millions de juifs sont morts dans la Shoah. Le petit hic dans ce raisonnement, c'est qu'on se dit, on prend en considération l'histoire qu'on a vue. Maintenant, je vais faire ça en juif. En juif, Dieu dirige le monde. Hitler n'est qu'une marionnette, il ne peut absolument pas bouger le petit doigt si Dieu ne l'a pas voulu, contre les juifs. Maintenant, Dieu décide que 6 millions de juifs doivent mourir. Nous, on se dit, on va jouer un tour à Hachem. Vu qu'on sait que la Shoah n'a lieu qu'en Europe, on va mettre tous les juifs en Israël. Comme ça, Hitler n'arrivera pas en Israël et on sera tous sauvés. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Quoi? Moi, je veux tuer 6 millions de juifs. Vous voulez m'échapper? Vous allez en Israël? Ben, c'est pas compliqué. J'amène Hitler en Israël. Non? Et nous savons que la première défaite nazie a lieu au bord de la frontière d'Israël, à Aleman, en Égypte, c'est le 1 et 2 novembre 1942, avant Stalingrad. Première défaite nazie. Personne n'y croyait. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu un malentendu au niveau de la, pour amener le pétrole pour l'armée de Rommel qui était en Afrique. Et grâce à ça, les Anglais, qui n'étaient pas tellement forts, plutôt nuls, ont réussi à vaincre les nazis. Et comme ça, ils n'ont pas réussi à rentrer en terre d'Israël. Donc on voit que même normalement, les nazis devaient arriver en terre d'Israël. Ça a été arrêté. Pourquoi? Parce que Dieu, qui voulait tuer 6 millions de Juifs, a pu le faire en Europe.
Mais si par exemple, au lieu de parler de Jérusalem et du retour en terre...
Maintenant, pourquoi? Maintenant, il manque encore un élément très important. Maintenant, je te dirais, je suis un rabbin qui est avant la Shoah. Je vois maintenant qu'Hitler commence à venir, ça grandit. Je dis aux gens, décamper, d'accord, pour pouvoir rester bêtement là-bas. La réponse est très simple. Ici en Israël, ceux qui étaient à la tête étaient les socialistes anti-religieux. Et les Juifs qui venaient d'habitude arriver ici en terre d'Israël, presque comme aujourd'hui, mais en beaucoup plus grave, ils très souvent quittaient la Torah. Et nous savons que la meilleure protection pour une Shoah, c'est l'étude de Torah. Donc en envoyant les Juifs en terre d'Israël, et là-bas ils auraient perdu la Torah qu'il y avait, on a amené une Shoah encore pire.
S'il y avait des aliotes massifs et des grosses communautés qui rentrent en Israël, il n'y aurait pas eu ce problème d'assimilation?
D'abord c'était impossible, parce que les Anglais mettaient des quotas, et on ne pouvait pas rentrer. C'était très difficile.
Par exemple, au lieu de dire...
Mais en cas où, par exemple, si maintenant on avait eu une assurance que... En venant en Israël, ce qui n'est même pas le cas encore aujourd'hui, on aurait pu pratiquer la Torah comme il se faut. Il faut savoir que derrière les coulisses, aujourd'hui, d'accord, il y a une bataille terrible qui se passe dans le monde, entre les religieux et les non-religieux, notamment ce qui concerne l'Aliyah française. Il y a des directrices d'écoles qui sont des maisons de passe. Je dis le mot, hein, entre garçons et filles là-bas, des maisons de passe. Des maisons de passe, c'est terrible. Elles vont déguisées en religieuses orthodoxes dans les exposés, dans les trucs salons blanc-bleu, salon de l'Aliyah, pour convaincre les parents d'amener leurs enfants dans les écoles. Et là-bas, les enfants arrivent avec talit, tzitzit, kippa, en 2-3 mois, plus rien, à notre génération. À notre génération. Alors, et à l'époque, c'était 50 fois pire. À l'époque, celui qui était religieux ne mettait pas ses enfants dans une école non religieux, ne recevait pas un ticket de rationnement, il ne bouffait pas. Tous les Juifs qui ont eu 300 000 enfants qui sont venus du Maroc, dont on laissait les parents là-bas.
Et quand on a une éducation à l'équipement en général,
hein?
On même l'éducation, on ne la quitte pas.
Mais comment
qui fait Shabbat, tout
ça. Mon père vient du Liban. À 14 ans, il quitte le Liban, d'accord ? Avec la Aliyah, on l'a convaincu, il monte en Israël. Il écrit une lettre à sa mère, il était orphelin de père. Maman, je pars en Israël, ciao, d'accord ? La nuit, il est parti. Ils l'ont mis où ? Au kibbutz Shomer HaTzair. C'est quoi Shomer HaTzair ? Gauchiste de gauchiste. Un beau jour, de Tfilin disparaît, il était Shomer Shabbat, mettez les Tfilin, plus de Tfilin, disparu.
Quel âge ?
14 ans. Maintenant, prends tous les jeunes gens, 15 ans, 16 ans, 17 ans, amène-les ici à l'armée. Même un religieux à l'armée. Je vais te raconter une histoire terrible. Terrible jusqu'aujourd'hui, ça me fait mal. Moi, je suis rentré volontaire à l'armée. J'étais un grand sioniste, je comprends que c'est une mitzvah. Avant ma tchouva, je suis rentré à l'armée, très heureux de rentrer là-bas. Le premier matin, je me lève à Tel HaShomer. Il y a là-bas peut-être 5000 soldats, d'accord, tout c'est le Gius, tout le monde va rentrer à l'armée. Je vois un groupe d'une vingtaine de jeunes comme ça en rond, au milieu un chassid. Un juif chassid qui, je ne sais pas pour quelle raison, est venu, il est arrivé à l'armée. Il fout un coup de pied dans les... Il est au milieu de tous, il fout un coup de pied dans les fesses et tout le monde rigole. Et un autre, tac, et comme ça. J'ai cru que je voyais une scène du temps des nazis. Exactement comme vous avez les photos comme ça, ils se moquaient des juifs religieux comme les nazis. Même chose ici en Israël. J'aurais dû partir et leur casser la gueule à tout le monde, mais tu vois, je ne suis pas un grand gabarit. Et je suis passé, je n'ai rien dit. J'aurais dû faire quelque chose. Jusqu'aujourd'hui, il m'aurait fait la même chose, je ne sais pas, mais j'aurais...
Comment c'est possible?
Vous n'êtes pas au courant de la guerre qui se passe ici. C'est terrible, terrible. À l'époque, on envoyait les Juifs ici, c'était terminé. J'ai commencé à dire 300 000, c'est mon oncle, un cornu de première, d'accord, j'aimais bien, mais jusqu'à ce que je suis, après qu'il est mort, on m'a dit, oh, j'ai compris, on a fait un film sur lui qui est dans le Mossad, etc. Il était Aliat Noir. C'est un espion. Sa femme et ses enfants étaient à Paris, à Anguin. Je ne dis pas son nom. C'était il y a 60 ans maintenant, et lui, il s'est occupé de Aliat Anouar, de faire monter les jeunes du Maroc. On dit aux parents, vous occupez pas, on les met dans des écoles bien comme il faut, on vient vous prendre la semaine prochaine pour le prochain voyage. Jamais on veut prendre les parents, parce que ça ne dérange pas les parents qui étaient vieux religieux marocains. Prenez les jeunes comme force de travail. Ben Gurion a dit, il faut amener maintenant une force de travail ici. Et on les rendait goy, non religieux. L'oncle de ma femme, Amram Pinto, descendant de Rabbi Haïm Pinto, d'accord ? Lui, il était le religieux. Il a demandé, je veux Jérusalem. Il l'a emmené en voiture à Nazareth, en pleine nuit. Et Nazareth, c'est un bled. Il y avait une rue et une rue, d'accord ? Une rue. Alors, ils ont fait la rue en haut, en bus comme ça, en taxi, voilà, tu vois, c'est Jérusalem. Ils l'ont, avec les valises au milieu de la nuit, ils l'ont posé comme ça, voilà. Le lendemain matin, il se réveille, il croit qu'il est à Jérusalem. Il dit, non, t'es à Nazareth. Jusqu'aujourd'hui, il est le pauvre. Alors, lui, il a continué à être religieux. Mais tous ces gosses, non religieux, terminé. Il y a une bataille terrible ici. Durant la Shoah. Durant la Shoah, vous avez vu le cours, vous avez vu ce film-là, comment ça s'appelle ? Le vrai visage d'Herzl. Les agents israéliens avaient des ordres. Vous pouvez sauver. Il y a le quota 10% de religieux, seulement des nationalistes religieux. Orthodoxes, zéro. Et 90% non religieux. Les autres, vous laissez crever, qu'ils aillent dans les camps. Alors comment veux-tu qu'on ait maintenant des religieux dans ce pays-là, en sachant qu'on va leur faire perdre leur Torah ? Les rabbins ont très bien agi. Et s'ils avaient agi autrement, en faisant monter les juifs en Israël, ils auraient quitté leur religion, il y aurait eu une Shoah pire.
Mais aussi, par exemple, si on remplace par exemple, Israël par les États-Unis, par exemple, est-ce qu'on aurait pu interdire à tous ces juifs-là de partir à l'étranger ?
Non, allez-y, mais personne n'en voulait, avant la Shoah.
Mais on sait qu'on peut voir aussi.
Avant la Shoah, mais
il y avait une possibilité, même un peu avant la Shoah, avant les années 40-50, il y avait une possibilité d'Alia. C'est beaucoup plus facile d'y aller.
Je te donne un exemple maintenant. Prends la France, d'accord ? Tout le monde comprend que la France, désolé ceux qui nous entendent, ça sent mauvais. D'accord ? Ça sent mauvais. C'est pas conseillé comme pays pour les Juifs. On te jette par la fenêtre du troisième étage, on rentre dans les écoles, on te mitraille. C'est pas génial. Viens. La majorité des Français veulent venir. Mais qu'est-ce que je fais ? J'ai pas de travail. J'ai pas d'études, je parle pas la langue. Je reprends tout à zéro.
C'est ça notre problème.
Mais c'est une possibilité technique de quitter l'Allemagne pour aller dans notre pays, c'était pas facile du tout. De plus, au bout d'un moment, il n'y avait plus aucune possibilité. Il y a un bateau de réfugiés qui est parti. D'Allemagne, 400 réfugiés, des citoyens allemands qui sont arrivés en Angleterre. L'Angleterre n'a pas voulu les recevoir, c'est dit, c'est plein d'espions. Et il a tourné, à la fin, il l'a envoyé en Australie. Ils sont arrivés en Australie. Oui, il y a un miracle très beau, je vous raconte l'histoire, elle est très, 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 l'histoire du jour que je n'ai pas racontée. C'était déjà au début de la guerre. La guerre déjà éclatée entre l'Angleterre et l'Allemagne. Et ce bateau-là, avec ces miskénim, ces juifs qui ont été déjà... Ils ne savaient pas où aller. Ils sont dans le bateau pour aller en Australie. Fin du monde. Et le capitaine du bateau, c'était un Anglais, mais un ancien voyou. Et très, très méchant. Et lui aussi, il croyait qu'il y avait plein d'espions allemands parmi les réfugiés juifs. Et un beau jour, il leur dit à tous, « Ok, vous prenez trop de place, il y a trop de poids dans toutes vos affaires, toutes les valises, par-dessus bord. » Et il prend tout, déjà, ils étaient plus, sans rien du tout, prend toutes les affaires, tac, jette par-dessus bord. Miskelling, ils arrivent pour finir en Australie, et bon... C'était il y a 20 ans peut-être, un ancien capitaine de U-Boot. U-Boot, c'était les sous-marins nazis. Il raconte son histoire. Il était en mission près de l'Angleterre et il voit un bateau anglais qui part. Il le suit et il s'avère, d'après la voie, il part pour l'Australie. Peut-être c'était autre part, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, il a compris qu'il partait sur l'Australie. Et il s'apprête à l'abattre. Il envoie un télégramme. En Allemagne, et il dit ouais, tu le descends le bateau. Bon, il s'arrête, il sort par l'escorte pour torpiller le bateau. Tout d'un coup, il voit un truc spécial. Il voit pour ta question, hein, la confiance en HM. Il voit qu'on balance des valises du bateau et qu'on voit ce qui se passe. Bon, il tire pas, il attend que le bateau s'éloigne, ils font surface, ils prennent les valises, ils ouvrent dedans, ils voient des lettres en allemand, des textes en allemand, des bouquins en allemand. Il dit ce sont les Allemands. Ils télégraphent. En Allemagne, on leur dit, ce sont certainement des prisonniers allemands, c'est donc citoyens à nous, vous t'accompagnes le bateau jusqu'en Australie. Tu le protèges. Le sous-marin, il a protégé le bateau toute la route jusqu'en Australie. Une fois qu'ils ont déposé tous les Allemands là-bas, le bateau revient, et là, le capitaine du boot, il a descendu, il a torpillé le bateau anglais avec le capitaine voyou qui était là-bas. Alors, sur place, tous les Juifs, ils disent, regarde ce que Dieu nous fait. Non seulement on est exilé, en plus toutes nos affaires, tous les trucs, j'ai plus rien, j'ai plus de fil, plus rien du tout. On t'a sauvé la vie. Et des fois, nous, on comprend tout en mal, alors que Dieu nous fait tout en bien. Quoi qu'il en soit, je te montre ici un exemple. Ce bateau-là, il a erré. C'est très, très compliqué. Après la guerre aussi. Exodus, etc., tous ces bateaux qui voulaient venir. Pourquoi on pouvait pas? C'était un problème. Aucun pauvre pays. C'est après la Shoah, je te parle. Alors, plus forcément, avant la Shoah, personne ne voulait nous accueillir. Ceux qui ont réussi à partir par-ci, par-là. Oui. Combien de Français ont quitté la Pologne et sont arrivés à Paris? Combien de Polonais et de Juifs sont arrivés à Paris? Il y a eu, mais tu peux pas dire, tout le monde est décampé.
Il y avait une époque, avant la Shoah, bien avant, même avant la Première Guerre mondiale, il y avait une époque où les Juifs ils pouvaient revenir en Israël.
Ouais, mais tu sais, il y avait la famille. C'est qu'ici à Jérusalem, les gens crevaient de faim.
C'est sûr. C'est
crevaient
c'est
de faim. Mouraient, il y a des gens qui sont beaucoup.
Aujourd'hui, par exemple, s'il y a des gens qui veulent faire leur arrière.
Ouais.
On leur conseille de faire leur
aller. Absolument, absolument. On leur dit attention.
Même si c'est difficile.
Bien sûr qu'on leur conseille. Et comment Rabbi Abraham Kanievski, il a tout le monde. Moi, j'ai envoyé une lettre au Rabbi Abraham Kanievski.
Évidemment, c'est très difficile, des fois, pour des gens.
Moi, j'ai envoyé une lettre au Rabbi Abraham Kanievski il y a 2-3 ans. Je lui ai fait comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, quand quelqu'un voulait faire sa LIA, on disait pas à tout le monde monter. Chacun regardait. Est-ce que tu peux t'arranger financièrement, les écoles pour les enfants, voir qui, quoi. Il y a des gens qui viennent ici. Tu sais que la LIA de l'année passée, une très grande alia, la moitié sont repartis en France. La moitié sont repartis en France. Ils n'ont pas trouvé de travail. Les Israéliens sont insupportables. C'est pas facile. Alors nous, on est pour l'alia, certainement pour l'alia. Mais l'alia réussit. Alors je lui ai dit, est-ce qu'on va au cas par cas? On a dit à tout le monde de monter. Il m'a dit, tout le monde monte.
Pourquoi ça a changé aujourd'hui
Pourquoi? Parce que tu vois que ça ne marche pas. Les gens, ils montent et ne tiennent pas le coup. Ou leurs enfants ne parlent pas en cacahuète. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va leur dire, fais ton aliyah, mais fais-la intelligemment. Trouve un travail, trouve des bonnes écoles, des vraies écoles pour tes enfants. Il y a un problème, je t'expliquais. Le problème est beaucoup plus aigu que ça. Il y a trois types d'écoles. Il y a les écoles orthodoxes, les écoles moitié-moitié, et les écoles complètement chilo, non religieuses. Les Français ne sont pas faits pour l'orthodoxe israélien. L'hypermajorité ne peut pas rentrer là-bas. 1% a tout cassé, d'accord? Donc, il y a 99%. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le met dans le moitié-moitié ou dans le chilo? Moitié-moitié, c'est pire que tout. Ils ont des Rabbi Chaim Kanievski. Un des ceux qui s'occupe de l'alia des enfants, il a dit est-ce que c'est mieux, moitié-moitié ou complètement non-religieux? Le rabbi, il a répété 10 fois en s'énervant, c'est mieux complètement non-religieux plutôt que moitié-moitié. Parce que moitié-moitié, ils reviendront tous non-religieux. Mais c'est seulement, on joue la comédie et tu leur bloques la voie de retour. Quelqu'un qui est religieux light, c'est très dur pour lui de revenir. On ne peut pas lui dire « deviens un rachat », d'accord? Mais un rachat, un type qui est vraiment hors du coup, il sait qu'il n'est pas en coup, il peut revenir. Quelqu'un qui... Rachid dit comme ça dans un commentaire d'embête ça, page 17, on finira avec cela. Il dit quelqu'un qui fait du moitié-moitié, pour trois raisons, c'est mauvais. Un, parce qu'il ne peut pas faire tchouva, parce qu'il dit, moi, je suis bien. Bon, je ne fais pas tout comme il faut, mais ça va. Deuxièmement, les gens apprennent de lui. Ça devient une chitane, une façon de faire. C'est comme ça, il y a un mouvement de gens qui font du moitié-moitié. Donc les gens apprennent de lui. Troisièmement, il déracine la Torah, la vraie Torah. C'est une nouvelle Torah qu'il lit. Mieux vaut qu'il y ait le juste et le faux, et pas un moitié-moitié.
Alors comment vous voulez qu'un Français...
C'est un gros problème.
Mais nous, les Français, on est moitié-moitié, vous avez ça, on va partager.
C'est un gros problème. La majorité des Français, c'est beaucoup du moitié-moitié.
Mais des bons moitié-moitié par rapport au moitié-moitié israélien.
On a plein de France.
Notre moitié-moitié à nous, il vaut rien par rapport à moitié-moitié israélien. Ok, notre religieux à nous en France.
Il est mieux.
Il est beaucoup moins bien qu'un vrai religieux.
Non. Le moitié-moitié français, il est mieux que le moitié-moitié israélien.
C'est ce que je dis. Autant le charédi en France.
Ok, alors.
Donc, il est moins élevé que le charédi en Israël.
Alors, tu l'amènes ici dans un moitié-moitié. Lui, c'est un bon moitié-moitié parce qu'il veut avancer. Il n'y a pas en France la chita. Il y a très peu. La chita, la méthode, le mouvement politique qui dit moitié-moitié. Il n'y a pas ça. Les cadres, d'habitude, sont des cadres religieux orthodoxes qui vont convaincre leur communauté à monter vraiment. Ils viennent ici, on leur dit non, comme tu es, c'est bien, comme surtout pas trop, reste comme ça. Alors on le gâte. C'est un problème, c'est un gros problème. Alors il faut des bonnes écoles, il faut des bons cadres, il faut du bon travail, c'est pas facile.
Mais aujourd'hui, c'est très difficile au niveau de la parnassa, au niveau de l'assimilation, etc.
Ouais.
Mais le cas de figure, bon, il était plus important, mais c'était à peu près le même cas de figure avant la Shoah. Pourquoi avant la Shoah, ils ont dit ah non, il ne faut pas retourner? Après la Shoah, si on a confiance en Dieu, on se dit que c'est le retour d'Israël.
Alors je te réponds, parce qu'à l'époque, venir en Israël signifiait t'es cuit. Aujourd'hui, c'est plus facile parce qu'il y a des cadres. Voilà. Il y a des gens qui peuvent venir essayer dans Yeshiva, il y a d'autres gens francophones, il y a des gens qui, dans toutes les villes, il y a des gens qui travaillent. Bon, au
prochain. Il y avait des communautés quand même.
Il n'y avait rien de rien. C'était tout ce que tu parles, c'était il y a 120 ans, comme on arrive en il y a 120 ans, ça dort très bien. Pourquoi les gens ne venaient pas? Il y avait une pauvreté, c'est tout. Quand l'État d'Israël était créé, il y avait ici, je ne sais plus le chiffre, mais c'était 40% de la population mondiale, population de l'État d'Israël était juive, 60% étaient arabes. Ils sont venus d'où? C'est quelques millions, 1 600 000, quelque chose. Ils sont venus d'où? Tu prends un siècle auparavant, deux siècles, il y avait presque personne. Ils sont venus d'où? En un siècle, ils ont commencé à venir, les gens venaient. Mais pourquoi ils ne venaient pas par masse? C'est pas facile. Il n'y avait rien là.
Mais Rav, c'est les sionistes anti-religieux aussi qui bloquaient l'arrivée des
enfants. Aussi, bien sûr, ça, il part plus tard, lui parle avant ça encore.
Il voulait un état juif.
Ouais, ça c'est plus tard, lui parle avant.
À l'époque, il y avait quand même des communautés juives, on voyait que le retour, il commençait à prendre marche après le...
Il y avait, parce qu'il n'y avait pas d'argent. Tu sais ce qui se passait ici, les gens, quand ils arrivaient, les nouveaux, on ne voulait pas les recevoir. La communauté ne voulait pas recevoir. Pourquoi? La communauté vivait de la Chalouka. Chalouka, c'était quoi? Les gens, il y avait des gens qui partaient à l'étranger demander de l'argent de Saka pour les choux, pour l'établissement juif en Israël. Et cet argent-là était distribué en tous les juifs israéliens. Un nouveau qui vient, ça fait moins d'argent. Donc au contraire, on le recevait pas. C'était pas facile. Même les juifs ne pouvaient pas que les juifs viennent. Bon, le temps est passé. Baruch Adonai, Amen.